Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui ne m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. La question de l'accès aux soins, des soins de qualité, en proximité et à un coût accessible, est une préoccupation très fréquente pour beaucoup d'entre nous. A fortiori, quand les conditions de vie, la faiblesse des ressources, rendent très difficile d'être bien soigné. Une enquête réalisée en mars dernier par Ipsos pour la Fédération hospitalière de France, qui regroupe les hôpitaux publics, indique que 40% des personnes interrogées ont renoncé à au moins un acte de soin au cours des 5 dernières années parce que c'était trop cher, qu'il s'agisse d'une consultation chez un médecin, d'achat de médicaments ou d'analyse médicale. 40% de la population touchée, ce n'est pas un phénomène anecdotique. Pour comprendre ce qui se passe ici, notamment pour les personnes en difficulté, et pour savoir quelles réponses sont apportées, j'ai invité deux professionnels qui sont sur le terrain, comme on dit, Marie Ferré et Guillaume Birouste. À chacun de vous, merci d'être venu au micro de Divergence. Marie Ferré, vous êtes coordinatrice régionale de Médecins du Monde. Après vos études en droit, en sciences politiques, puis avec un master pratique sociale du développement, vous avez travaillé dans des organisations non gouvernementales, des ONG, l'association Sœur Emmanuel en Haïti et en Égypte, puis avec Médecins du Monde en Égypte, au Sénégal et à Mayotte. Puis en 2014, retour en France, vous avez passé 10 ans à la tête d'un organisme de formation à la régulation non violente des conflits. Ça mériterait une discussion, on n'aura pas le temps. Puis retour au début de l'année à Médecins du Monde, cette fois à Montpellier, à la tête de la délégation Languedoc-Roussillon. Guillaume Birouste, vous avez fait des études de médecine à Montpellier, notamment jusqu'à votre thèse en 2009. Vous avez aussi suivi, c'est une particularité, une formation en sociologie jusqu'à votre thèse en 2014 consacrée à l'inégalité sociale de santé en médecine générale. Et on retombe donc sur ses pattes pour dire que vous avez été installé, vous êtes en R7 comme médecin généraliste en 2015. Vous avez choisi aussi d'être formateur. Durant les années 2012-2013 et 2013-2014, vous avez été attaché temporaire d'enseignement et de recherche, c'est la dénomination, au département de sciences humaines et sociales de la faculté de médecine de Montpellier. Depuis cette rentrée universitaire, vous y êtes maître de conférence associé, en charge du diplôme universitaire Santé, Solidarité, Précarité. Nous verrons comment s'est noué sur ce terrain le lien avec Médecins du Monde. Alors, vous le savez, avant de nous racontiez ce que vous faites dans vos activités professionnelles. Racontez-nous votre Montpellier. À votre tour, d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors Marie Ferré, vous n'êtes montpelliéraine que depuis quelques mois, depuis le début de l'année. Alors quels sont les lieux que vous avez découverts, que vous connaissez mieux maintenant à Montpellier, que vous appréciez particulièrement?
Eh bien, mon quartier. Je suis installée dans le quartier Clémenceau-Gambetta.
Oui.
Et j'avoue que j'adore.
Voilà.
C'est un petit peu sans dessus-dessous. Hein,
oui, il y a les travaux. Oui,
en
la
plein.
Ligne 5, oui.
Voilà, j'habite au-dessus des travaux. Voilà. Du
train. Il faut attendre encore un an. Hein, donc.
Mais justement, la perspective là, de goûter un espace refait à neuf et puis avec une circulation qui va être quand même pratique. Oui. Et puis le quartier hyper vivant, ouais, il y a plein de magasins.
Commerces,
voilà.
Oui.
Moi, c'est ça que j'aime et là, j'ai trouvé tout ça.
Un vrai quartier.
Un vrai quartier.
Et on va poser la même question. C'est toi qui dois, j'imagine, regarder Montpellier d'un œil un peu plus distant.
Oui, d'un œil distant et en même temps, donc, je suis né à Montpellier. Donc, j'ai une famille en partie montpelliéraine, une autre partie sétoise. Donc, ce n'est pas toujours simple, effectivement, à gérer entre les deux parties. Alors, j'ai entendu dans le jingle qu'il fallait pas que ce soit trop carte postale, mais il faut avouer que quand même, on a une faculté de médecine qui est particulièrement jolie.
Ah,
donc,
oui.
je suis plutôt nouvelle, plutôt ancienne faculté, je veux dire, que la nouvelle faculté.
Oui, l'ancienne faculté dans le centre
médiéval. Dans le centre-ville, exactement, plutôt que la nouvelle faculté qui est dans les quartiers des hôpitaux. Et après, dans les lieux que je continue de fréquenter et que je fréquente encore en dehors de la fac, bah, il y a la librairie coopérative de la Cavale, que vous connaissez peut-être vous aussi, évidemment.
Au Beaux-Arts.
Au Beaux-Arts, voilà.
Rue de la Cavalerie.
Parfait.
Très bien. Bon, alors on ne va pas poursuivre, il y avait d'autres questions, mais comme vous êtes deux, je voulais quand même qu'on traite correctement les sujets qui vous amènent à mes côtés. On va donc enchaîner sur, en commençant peut-être par un petit point. Hein, on met souvent Médecins du Monde et Médecins sans frontières dans le même sac. Hein, Marie Ferré, selon vous, entre les deux, quels sont les points communs et les points distinctifs de ces deux ONG?
Ben, vous l'avez dit, il s'agit de deux ONG, donc deux associations humanitaires qui travaillent toutes les deux à l'international. Médecins du Monde est issu de Médecins sans frontières, puisque c'est un peu des dissidents de Médecins sans frontières qui ont créé Médecins du Monde dans les années 80. Voilà pour les points communs. Les divergences, je dirais aujourd'hui, une mission des opérations en France qui sont très développées chez Médecins du Monde, avec un positionnement politique et une communication forte autour pour témoigner. En fait, cette dimension de témoignage est assez forte chez Médecins du Monde depuis le démarrage, et c'est un peu ce qui a été à l'origine de la divergence.
Oui, c'est-à-dire pas simplement intervenir, mais mettre le doigt où ça fait mal, si j'ose dire, avec cette image discutable, et le mettre sur la table, quoi, de mettre dans le débat public.
Voilà.
Très bien. Alors, précisément, donc, quelles sont, en France et à l'étranger, les principales missions, je veux dire, les grands axes de l'action de Médecins du Monde?
Ben, soigner, témoigner. On fait ce travail de soins. Alors, on n'est pas dans les soins spécialisés, hein, plutôt l'idée du premier recours de soins, avec l'idée...
C'est-à-dire l'urgence, la médecine générale?
Oui, alors on a quelques missions d'urgence, mais on a aussi beaucoup de missions de développement. Et notre idée, c'est d'intervenir pour repartir, que ce soit en France ou à l'étranger. On met en lumière des situations, on accompagne des acteurs et ensuite on laisse la place pour que, notamment à l'international, on ne prenne pas toute la place.
Une espèce de première étape, donc.
C'est ça.
Dans le parcours de soins.
Voilà, et puis dans le fait que nous, on a parfois les moyens d'aller là où les autres ne vont pas et de mettre en lumière des situations qui ensuite vont pouvoir permettre, cette mise en lumière va permettre la mobilisation des acteurs publics.
Et pourquoi avez-vous ces moyens que d'autres ne l'ont pas?
On s'appelle Médecins du Monde.
Ouais.
Et cette notoriété qui est liée notamment à l'action internationale permet effectivement, notre nom est un peu connu. Et parce qu'on témoigne, parce qu'on fait ce travail depuis des années et qu'on est reconnu aussi, ça permet de mettre en lumière ces situations, d'avoir cette...
Et peut-être d'agréger des contributions, des soutiens, des relais, peut-être des financements qui permettent de réaliser les actions.
Exactement, c'est exactement ça. On a la confiance aussi des bailleurs, des partenaires. On peut faire des coalitions de causes communes où le nom de Médecins du Monde va venir agréger des plus petites associations qui font tout un travail de terrain aussi pertinent que le nôtre, mais parfois sans avoir les moyens en termes de communication que nous, on peut avoir. Et ça, c'est vrai en France comme à l'étranger.
Alors, on a compris les valeurs qui vous animent. Et vous-même, Guillaume Virous, dans votre pratique professionnelle, en quoi vos repères, peut-être déontologiques, ou en tout cas ce corps de valeurs, coïncident avec ceux de Médecins du Monde? Où est la proximité?
La proximité, elle est, j'ai envie de dire, elle est permanente dans le sens où, quand on est médecin, on est toujours confronté aux aléas de la vie des uns et des autres. Et donc, on est souvent confronté à des populations qui peuvent être en difficulté sociale pour quelque raison que ce soit, des migrants, des gens qui sont dépourvus de sécurité sociale ou qui n'ont pas de mutuelle, ou enfin toutes les situations qui font qu'il y a des difficultés d'accès aux soins. Et ce sont des situations qui peuvent nous contraindre aussi dans l'activité qu'on peut avoir. Et donc savoir à la fois vers qui se tourner, qui appeler, savoir se dépatouiller en gros avec tout ça, qu'on n'apprend pas forcément toujours à la fac, dans le cursus général de médecins, mais d'autres professionnels de santé également, ça renvoie effectivement au besoin d'être en lien avec
ce genre d'association. Ce contact quotidien avec le réel. Quoi.
Oui, c'est ça. Mais...
C'est la partie du réel la plus difficile.
Oui. C'est ça.
Très bien.
Et puis peut-être une aspiration à soigner tout le monde.
Oui, cette idée d'universalité, de l'accès aux soins, oui, qui vous rassemble.
Oui, c'est sous-entendu dans ce que je disais. C'est-à-dire que si on veut soigner tout le monde de la même manière, ou en tout cas soigner les besoins des gens de la même manière, on est obligé effectivement de faire appel à d'autres choses que juste la médecine biologique
classique
qu'on apprend là sur les bancs de la faculté. Oui.
Très bien. Alors, avant de découvrir vos activités, dites-nous à grands traits l'un et l'autre quelle est la situation sociale sur le plan sanitaire dans la région et plus particulièrement à Montpellier-en-Sète. Qu'est-ce qui caractérise, je dirais, on vient de l'évoquer, cette situation sur laquelle vous vous efforcez d'intervenir efficacement.
Alors, la question de l'accès aux soins, je pense, est présent pour tous aujourd'hui, et particulièrement pour les populations qu'on accueille, avec différentes barrières, volontaires ou non, mais cette question-là, elle est prégnante sur le territoire montpelliérain comme sur les autres, avec un certain nombre de déterminants de la santé qui sont en difficulté. Je pense à l'accès au logement aussi, oui, qui est une vraie réalité. Alors, moi, je viens de m'installer, je vois les difficultés que j'ai eues à avoir accès à un logement.
Avec des revenus corrects, j'imagine.
Un contrat, un CDI, tout ce que vous imaginez. Donc ça, pour des populations qui n'ont pas de revenus et qui sont en difficulté, voilà, je pense que c'est une question prégnante aujourd'hui sur un territoire comme la ville de Montpellier qui attire de la population, quelle qu'elle soit. Et du coup, il y a une vraie problématique de logement. Et le logement est un déterminant de la santé.
Donc logement, avec les problématiques, on va parler de squat, de bidonville, voire de sans-abri, voilà, mais que c'est qu'une partie
des difficultés
d'accès à un logement décent, hein, bien sûr.
Et tous les gens qu'on retrouve en rue, effectivement, et dont la santé va se dégrader parce que les situations d'habitat sont difficiles.
Et d'autres déterminants importants, les ressources, bien entendu, j'imagine, mais...
C'est sûr que la précarité, grande précarité, c'est un tout, en fait. Il y a cette histoire du logement, mais ça vient se cumuler avec un capital éducatif qui n'est pas toujours présent. On l'a vu, il y a d'autres associations qui sont plus spécialisées, mais pour sortir de la pauvreté, il faut 6 générations. Donc, une fois qu'on est pris dans ça et dans la pauvreté, c'est compliqué. Et puis, des parcours migratoires aujourd'hui qui vont dégrader la santé, avec des gens qui partent en bonne santé, mais qui arrivent et des conditions d'accueil qui sont dégradées avec la rue et tout ça. Et donc, on va retrouver des problématiques de santé qui vont s'aggraver.
Alors, même regard, je dis en tout cas regard convergent, Guillaume Hiroux, c'est ce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce que vous vivez dans votre cabinet à 7.
Complètement. C'est vrai qu'on est... L'Hérault et le sud de l'Hérault en particulier, c'est une terre de passage depuis longtemps qu'il le reste. Sète a la particularité aussi d'être un port. Il y a un centre de rétention administrative. Donc il y a des populations diverses et variées qui passent.
Alors, j'explique le centre de rétention administrative, c'est là où sont retenus pour des durées parfois longues les personnes qui ont été l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en tout cas qui sont là temporairement dans des conditions qui ne sont ni celles d'un centre social, ni celles d'un hôpital, ni même celles de certaines prisons.
Oui, c'est ça. Et donc c'est vrai qu'on a accès à ces populations-là quand on est en profession de santé. Peut-être aussi une population qui est un peu particulière à Montpellier, c'est la population étudiante, dont on ne parle pas toujours, mais qui est aussi une population qui peut être précaire, dépendante en tout cas d'autres revenus qui ne sont pas les revenus salariés, qui sont les revenus des parents si les parents ont des revenus. Et donc c'est aussi une population qui est assez spécifique, qu'on voit plus sur Montpellier que sur Sète, évidemment.
Dans
un état de fragilité, parce que la précarité, c'est pas seulement effectivement la question des ressources, mais effectivement ce à quoi on peut se raccrocher. Et si on est étudiant un peu isolé dans une CTU, évidemment on n'a plus beaucoup, pas forcément toujours d'éléments à quoi se raccrocher, d'aide matérielle et humaine, quoi.
Bien, alors on va regarder plus près comment Médecins du Monde est organisé dans notre région là. Marie Ferré, comment c'est organisé, les salariés, les bénévoles.
Tout à fait. On a une délégation Languedoc-Roussillon, donc on travaille dans l'Hérault et dans l'Aude. Et dans l'Hérault, on a 3 programmes qui sont plutôt dédiés en fonction des entrées populationnelles, on va dire.
Non, on va en parler dans quelques minutes. Oui.
Donc, et pour faire fonctionner tout ça, on a des bénévoles qui sont le cœur du réacteur, on va dire.
Ah oui.
Et puis, oui,
il y a quelques salariés quand même.
Voilà, il y a quelques salariés qui permettent la continuité et puis les opérations plus techniques, notamment de suivi des subventions, des choses comme ça. Mais les bénévoles, c'est grâce à eux qu'on fait les activités de terrain, puisque c'est un peu le propre de Médecins du Monde. On n'est pas opérateur avec que des salariés, on est opérateur de programme avec un certain nombre de bénévoles soignants et non soignants qui viennent faire les activités de nos programmes.
Une 60aine, c'est ça, au total
Oui, entre 60 et 80 à peu près.
Alors, vous souhaitez que d'autres personnes vous rejoignent comme volontaires?
On est toujours intéressé par les bonnes volontés.
Alors, profil, c'est plutôt un mot de direction des ressources humaines, mais bon, quel type de personnes?
Il n'y a pas de profil spécifique, et on a des soignants et des non-soignants. Ouais. Évidemment, on a toujours besoin de médecins, et comme dans la population générale, il en manque, nous aussi, on en manque un peu, forcément. Mmh. Pour nos consultations, mais on a aussi des accueillants sociaux, des personnes qu'on forme. En fait, le propre, c'est de former les bénévoles.
Ils ne partent pas plein pot sur le terrain sans être préparés, bien sûr.
On les accompagne, il y a un parcours d'accueil aussi au sein de Médecins du Monde pour leur expliquer notre travail. Et puis c'est parti. Il suffit d'avoir
Alors,
de la bonne volonté.
Vous pouvez donner une adresse mail ou un téléphone pour ceux de nos auditeurs, auditrices qui seraient intéressés par cet accompagnement.
Un petit mail sur languedoc-roussillon@medecindumonde.net et c'est parti pour demander à participer à la prochaine réunion qui aura lieu le 7 novembre.
Très bien. Alors, on poursuit. Donc, vous avez évoqué les grands programmes que vous avez retenus à partir de vos priorités, j'imagine. Dans la région, et notamment à Montpellier. On va peut-être les décrire à grands traits, quel public s'adresse, pour quelles actions et combien de personnes ont d'ores et déjà été accompagnées ou touchées. D'abord, la mission Santé Habitat ou la médiation squat et bidonville qu'on a évoqué tout à l'heure, de quoi s'agit-il?
Alors, il s'agit d'une mission d'aller vers, c'est-à-dire qu'on se déplace dans les quartiers, dans les squats ou les bidonvilles sur Montpellier, pour aller vers les populations qui sont souvent éloignées du soin et un peu exclues. Et on va les accompagner à revenir vers le soin, alors faire de la médiation en santé en fonction de leurs besoins et aussi de leur élan à eux, les accompagner à trouver un médecin traitant, à trouver des consultations de généralistes. On fait aussi de la prévention bucco-dentaire pour sensibiliser sur des questions de santé.
Alors, ça touche à la fois les adultes et les enfants, j'imagine, cette démarche?
Oui, exactement. C'est-à-dire que dans les bidonvilles, aujourd'hui, on a 750 personnes, habitants à peu près, qui habitent des habitats qui sont dégradés, avec des difficultés d'accès à l'eau, notamment à l'électricité. Et donc, on accompagne ces personnes. Et donc, c'est souvent des familles, donc enfants, parents.
Alors, deuxième programme, il s'appelle Rosella, donc on va décliner. Réduction des risques auprès de travailleurs et travailleuses du sexe. Là aussi, une population particulière que vous avez choisi d'accompagner d'une manière spécifique.
Voilà, on accompagne ces populations dans une perspective d'accès aux droits. Donc, accès aux droits, accès aux soins.
Accès aux droits au pluriel.
Accès aux droits au pluriel, tout à fait. Et donc, on fait de l'aller vers là aussi, c'est-à-dire on va faire des tournées là, physiques mais aussi virtuelles. Pour les toucher, les rencontrer et leur apporter des moyens de réduire les risques dans leur activité et de l'information, de la prévention et un accompagnement aussi humain, social, pour aller vers les droits et vers la santé.
Et vous travaillez notamment avec une association qui est connue pour travailler dans ce secteur, le NI, là, c'est un de vos partenaires, ou en tout cas, il y a une conjonction, je dirais, de manière d'aborder ces problématiques qui vous rapprochent ou pas
Alors,
vraiment?
Pas du tout.
Ah, pas du tout. Je ne savais pas pour le coup, mais bon.
Mais nous, on parle de travail du sexe, donc on considère que c'est une activité. Ouais. Et notre objectif n'est pas de sortir les personnes ni de soutenir leur activité. Ce n'est pas Bien un sûr. Point de vue sur leur activité. On est plutôt dans accompagner leurs pratiques pour réduire les risques.
C'est ça, de prendre la situation pour ce qu'elle est.
Voilà, et d'accompagner la personne là où elle veut aller. Donc, si elle choisit un parcours de sortie de prostitution, on peut lui désigner. Mais après, nous, on parle santé surtout. C'est ça qui nous importe. Permettre aux personnes de se soigner, d'avoir accès aux soins et de se protéger dans leur activité.
Non, on voit la différence avec d'autres personnes qui sont plutôt à inviter ou à pousser ces personnes à quitter cet état.
Voilà.
D'accord. Très bien. Et enfin, troisième grand programme porté par la délégation régionale de Médecins du Monde, le centre d'accueil de soins et d'orientation. Donc, ça correspond, j'imagine, à cette approche-là de très cas par cas, en quelque sorte, pour aider les personnes à franchir la première étape vers un parcours de soins correct.
On est dans la même démarche, c'est-à-dire un accueil inconditionnel. Soit on va vers les gens, soit on les accueille. Donc notre caso, il est ouvert 3 demi-journées par semaine pour des consultations médico-sociales.
À Montpellier, donc.
À Montpellier.
On va donner l'adresse.
Euromédecine, 246 rue de Chambert. Et puis 2 demi-journées par semaine pour des soins dentaires.
Oui.
Et là, c'est un accueil inconditionnel. Donc les gens arrivent et en fonction de leur situation, on va soit les prendre en charge, soit les orienter. S'ils ont des droits, ben, on va les accompagner pour qu'ils trouvent un médecin. Soit les orienter vers la PASS qui va les prendre en charge, soit nous-mêmes faire quelques démarches pour qu'ils aient ensuite accès à la PASS. Enfin voilà, il y a
Donc, ça veut dire sans condition, c'est sans condition de ressources, sans condition de disposer de papier, voilà. Y compris notamment pour les étrangers. Je dis, voilà, c'est, vous traitez cette question, mais pas avec le regard administratif ou financier que d'autres organismes peuvent avoir.
Alors, c'est effectivement notre cœur de métier d'accueillir les gens qui ont un besoin de soins, en l'occurrence. Mmh. Mais ça peut être des besoins sociaux, puisque ouvrir l'aide médicale d'État, par exemple, c'est compliqué quand on ne connaît pas le système ou même quand on ne connaît pas du tout l'existence de ce dispositif. Donc, c'est accueillir les gens sur un besoin de santé, mais qui peut être un besoin social, finalement, quelle que soit la situation, et ensuite les orienter. On n'a pas vocation à suivre les gens et à être leur médecin
traitant.
Accueil
et orientation, comme l'indique l'intitulé du programme.
Exactement.
Voilà, cette première phase. Et donc, vous avez vous me donnez une idée du nombre de personnes que vous avez pu toucher là, avec ces dispositifs-là. On ne cherche pas à comptabiliser la chose, mais ça donne une idée quand même de l'effectivité, je dirais, de vos interventions, le nombre de personnes accueillies ou accompagnées.
Alors, nombre de consultations, 1400 à peu près au CASO, et ça représente 900 personnes.
Sur une année.
Il y en a quand même qui peuvent venir une ou deux fois pour un suivi un peu plus complexe.
D'accord. Alors, je me tourne maintenant avec Guillaume Birouste. On l'a un peu évoqué, mais selon vous, ça me semble utile d'y revenir, quel est l'impact de la précarité sur la santé? Je dis, comment ces difficultés, on les a évoquées, tout tenant au logement, aux ressources, au parcours, notamment pour les migrants, comment ça se traduit concrètement dans le type de pathologie que vous détectez et soignez dans votre cabinet à 7?
Alors, il n'y a pas vraiment de pathologie spécifique des personnes précaires. Enfin, on peut aller chercher après des pathologies rares qui peuvent se trouver dans des populations spécifiquement précaires. Je pense au saturnisme, par exemple, qui est souvent lié aux peintures au plomb, donc à des problèmes de logement assez spécifiques. Mais globalement, il n'y a pas de pathologie spécifique des personnes pauvres. Par contre, on sait que toutes les pathologies sont beaucoup plus fréquentes chez les personnes les plus précaires.
Et plus graves.
Et souvent plus graves, avec des retards de soins, avec effectivement des difficultés à se faire soigner, qui font que les pathologies vont s'aggraver petit à petit et être pris en retard dans des situations qui sont des fois tardives et même dramatiques à certains moments, quoi.
Très bien. Alors, on va revenir sur votre activité de formation. Donc, je rappelle que vous dirigez le diplôme d'université qui s'appelle Santé, Solidarité, Précarité, en restant dans le sujet, co-organisé par le département de sciences humaines et sociales de la faculté de médecine de Montpellier avec Médecins du Monde. Alors, dans le prolongement de ce que vous venez d'évoquer, l'un et l'autre, à quel besoin cette formation correspond-elle et quels sont ses objectifs?
Je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les études de médecine, on ne parle pas énormément des questions de précarité. On ne parle pas énormément des questions d'accès aux soins. Alors nous, au département de sciences humaines et sociales, justement, on essaye.
C'est quand même la vocation du département.
Voilà, on donne des cours, alors pas seulement sur ces questions-là, évidemment, mais aussi sur ces questions-là, de donner des cours et des enseignements tout au long des études de médicales et paramédicales. Sur ces questions-là, mais c'est vrai que le DU a une orientation particulière puisqu'il va s'adresser à des professionnels déjà en général.
Ah oui, les personnes qui suivent ce parcours, quelles sont-elles?
Donc ça s'adresse assez peu aux étudiants en médecine, aux internes qui sont à la fois étudiants mais aussi, on va dire, déjà des professionnels de santé puisqu'ils travaillent à l'hôpital. Et donc le but, c'est de s'adresser à des professionnels de santé et du social, et du médico-social, du coup, évidemment.
Ah oui, c'est-à-dire, on l'a vécu un peu, ces regards différents, le social, le médico-social et le social.
Oui.
Ils trouvent sa traduction, dans...
Chacun dans sa situation, on va dire. Nous, les soignants, dans nos cabinets médicaux ou à l'hôpital, ou les professionnels du social dans, je ne sais pas, une assistante sociale, par exemple, qui travaillerait au CCAS, ou quelqu'un qui travaille dans un centre d'hébergement, on se retrouve face à des difficultés du fait que, justement, il y a des questions spécifiques de santé et de précarité, et on se trouve chacun démuni pour agir dessus. Et donc, le but de ce DU, c'est de donner, effectivement, des billes aux gens qui viennent y assister.
Avec des billes qui sont médicales, administratives, psychologiques, je ne sais quoi.
Un peu tout. C'est-à-dire donner des billes médicales pour les professionnels du social, social et de droit pour les professionnels de santé, pour donner une certaine culture commune, finalement. Ça, c'est une première étape avec des cours, on va dire, un peu théoriques. Et puis, un aspect très, très pratique aussi, avec des situations concrètes. Et aussi, la constitution, finalement, d'un réseau de soins local. des DU comme ça, il y en a dans différentes villes. Le but, c'est d'avoir à la fois un socle commun et en même temps de constituer voilà, des réseaux avec des associations qui sont différentes d'un département à l'autre, d'une ville à l'autre, et auxquelles les gens puissent se référer, avoir les contacts et créer du lien entre eux, puisque chaque promo, en gros, crée du lien de fait à travers l'enseignement.
Alors, comment s'est créé on comprend dans les mots votre communauté d'intérêts, de préoccupations et peut-être de valeurs, mais comment s'est créé ce partenariat avec Médecins du Monde ?
Eh bien, c'est des soignants, acteurs de Médecins du Monde, je vous l'ai dit, hein, nos soignants, ils sont tous bénévoles. Et donc, on a eu des médecins et des infirmières qui se sont dit un jour, mais il y a quand même une clinique particulière en lien avec la précarité qui nécessiterait que, dans les études de médecine, on puisse avoir cet éclairage-là. Et donc, c'est le docteur Micheletti, notamment à Grenoble, qui a initié le premier DU, comme ça, qui est finalement un diplôme complémentaire pour des personnes qui voudraient un peu s'intéresser à cette question santé-précarité.
Très bien. Alors, on s'approche de la fin, mais une question à la fois d'actualité et nationale. Dans le débat sur l'immigration, les partisans de la restriction drastique de l'accueil des étrangers demandent la suppression de l'AME. Ça a été évoqué, l'aide médicale de l'État, dont ces étrangers, ou certains de ces étrangers, bénéficient. Elle est jugée extrêmement coûteuse. En quelques mots, dites-nous pourquoi vous considérez que ce dispositif doit être maintenu.
Alors, coûteux, quand on parle de 0,47% des dépenses de l'assistance de l'assurance maladie,
même pas un demi-pourcent
voilà.
De ce que coûte l'assurance maladie à l'ensemble de ses bénéficiaires.
Donc, on pourrait regarder d'autres dépenses coûteuses. Bon, j'en citerai pas, mais j'en ai plein en tête. Donc celle-ci, moi, j'estime qu'elle n'est pas coûteuse à une échelle d'un budget d'un pays, évidemment. C'est pour ça que je ne parle pas de chiffres, je parle de pourcentage. Et puis, par ailleurs, il y a aussi l'idée reçue que ça créerait un appel d'air et que les gens viendraient pour ça. Clairement, quand on migre, je crois pas que... Enfin, je vous l'ai dit, c'est plutôt des personnes en bonne santé qui migrent, qui sont pour des raisons que la vie sur place n'est plus tolérable.
La bonne santé est souvent plus diplômée qu'on ne le croit.
Voilà. Ils migrent pour chercher une vie meilleure et leur objectif, ce n'est pas de se soigner. Ça, c'est vraiment une idée reçue, puisque seulement 49% des personnes n'ont pas recours à l'AME parce qu'ils ne connaissent pas le dispositif. Donc voilà, c'est un dispositif qui est contrôlé, largement maîtrisé, on va dire. Et du coup, c'est une dépense qui semble tout à fait nécessaire, d'autant plus pour notre système de santé qui est aujourd'hui en difficulté. Si les gens ne peuvent pas soigner, les pathologies vont s'aggraver et ça va peser sur les urgences et le système de santé. Donc c'est vraiment un calcul très, très, très court terme de se dire que ça coûte de l'argent. C'est une erreur profonde.
Oui, en plus, il y a un rapport, Patrick Stefanini, un ancien ministre de la Santé dont le nom m'échappe, qui disait ça, quoi, qu'il fallait voir la chose dans tous ses aspects. Et c'est retombé, notamment, vous l'avez dit, dans l'impact sur le système de santé. Et donc, avant de clôturer, donc je vais vous proposer ma question que je pose habituellement à mes invités pour qu'on retombe sur quelque chose qui est, me semble-t-il, encore un intérêt. Dans votre activité, l'un et l'autre, vous rencontrez souvent des idées reçues, des idées fausses. Elles vous agacent et vous voudriez les voir disparaître. Alors, Marie Ferré, quelle est l'idée reçue sur votre activité au sein de Médecins du Monde ? Vous pouvez profiter du micro d'Urgence FM pour la zigouiller au passage.
on parle des personnes que nous, on accompagne souvent en parlant d'assister.
Oui.
Alors moi, j'aimerais bien voir ceux qui disent ça, passer quelques nuits à la rue avec leurs enfants, chercher à manger toute la journée, ne pas savoir où ils vont dormir, comment ils vont se couvrir. Et au bout de tout ça, trouver encore l'énergie et la force de se battre pour faire scolariser ses enfants, chercher un logement, voilà. Je pense que voilà.
Très bien. Alors, même question, Guillaume Birous. Voilà, c'est des choses qui se promènent, quoi, y compris dans les médias, quand même.
Oui, alors c'est une question qui n'est pas évidente, qui rattache à la fois mon activité médicale et mon activité de sciences humaines et sociales, qui est le fait de penser que les inégalités sociales de santé, on l'a dit, toutes les pathologies sont plus fréquentes chez les personnes les plus pauvres, ce serait un problème seulement du système de santé et même un problème d'accès aux soins. Là, il faut revenir aussi sur une question qui est plus politique, qui est de dire
plus transversale.
Voilà, les inégalités de santé existent parce qu'il existe des inégalités dans la société. Et tant qu'il y aura effectivement des inégalités aussi importantes dans la société, bon, on ne peut pas s'étonner que ça ait des conséquences en termes de santé, que ça passe par le revenu, par les diplômes, etc. etc.
Très bien, je vous remercie l'un et l'autre de votre contribution.
Merci.
J'allais dire l'édification, le mot est trop religieux, en tout cas l'information des auditeurs. Merci.
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 Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.